Bienvenue à la saison 1 de Raw Podcast, The Morning After the Crisis, une nouvelle série en ligne qui fait appel à la sagesse et à l'imagination d'individus inspirants et créatifs, travaillant dans différents domaines en anticipation des lendemains de la crise du COVID-19.
Les murs, les avez-vous remarqués? Les avez-vous seulement regardés? Ces murs peuvent se révéler à nous au détour d'une rue, au croisement d'un boulevard, à la sortie d'une autoroute. Ces murs peuvent nous apparaître partout et nulle part à la fois. Au Sénégal, le street art est considéré comme une forme à part entière d'expression culturelle. D'abord observé comme l'une des formes d'expression visuelle des cultures urbaines, le graffiti est rapidement devenu un symbole. Aussi, il n'est pas surprenant de voir les différents collectifs que compte Dakar prendre d'assaut les murs de la ville et d'y exprimer leur créativité sous le regard admiratif des badauds et la complicité des riverains. Car le street art au Sénégal est collectif et militant. Il est le reflet de notre société. Les thématiques peuvent diverger, les styles et la typographie également, mais ils auront ceci de commun qu'ils seront unis par et pour le peuple. Au début de la pandémie, ils étaient là pour sensibiliser, éduquer, accompagner et soutenir. Aujourd'hui, ils sont à nouveau au rendez-vous pour dire et témoigner notre soutien à nos frères et sœurs noirs de l'autre côté de l'Atlantique. Ils sont artistes, militants, activistes, penseurs, philosophes. Oui, tout ça et bien plus encore. Ils sont le RBS Crew. Mon nom est Fatima et notre invité ce jour est Matzo du RBS Crew. Le RBS Crew, soit Radical Bomb Shot, est un collectif d'artistes graffeurs fondé le 30 mai 2012 à Dakar par Kingmo 504, Matzo et Kraft. Leur credo, illuminer la vie des gens à travers leur art. Le RBS Crew est actuellement composé de 16 membres. Cet épisode a été enregistré le 16 juin 2020, quelque part entre la zone B et les parcelles assainies. Bonjour Matzo, et merci d'avoir accepté
l'invitation. Merci à vous, Fatima, pour l'invitation.
Alors, pour commencer, permets-moi de te présenter, Matzo. De ton vrai nom, sereinement surfale, tu te fais appeler Matzo The Radical Killuminati. Artiste issu de la banlieue dakaroise, tu entres dans l'univers du street art en 2004. Ton art est un moyen pour toi de faire passer des messages et de remettre les jeunes au cœur de leur destinée. Tu es un passeur qui a lui-même reçu le témoin à travers les écrits de Cheikh Anta Diop, dont tu découvres la pensée bien après ton passage à l'université. C'est d'ailleurs ce qui va achever de te convaincre de la nécessité de réformer le modèle éducatif de notre pays, en particulier l'enseignement universitaire qui nie, de par son omission, une part significative de notre identité culturelle. Tu vas te servir de ton don pour laisser sur les murs de la ville ton empreinte et partager avec nos concitoyens les connaissances acquises au fil de tes recherches. En 2012, le RBS Crew voit le jour et vous vous attachez ensemble à structurer vos actions, à vous professionnaliser et à développer des partenariats avec différents acteurs afin d'accompagner les mutations culturelles, sociales et économiques de notre pays. Fervent disciple de Baylai, vos messages ont également une haute connotation spirituelle. Vous prônez le brassage entre les cultures, la valorisation de nos identités et une ouverture choisie. The Radical Concept est pour vous l'ultime tremplin pour révéler le secret de la culture hip-hop à un public jusque-là profane. Comment ça va, Matzo?
Ça va bien, alhamdoulilah. Et vous, comment vous vous portez?
En forme. Donc, Matzo, avant toute chose, il faut que je te demande de nous parler de ton nom d'artiste. Matzo, The Radical Killuminati. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où tu le tiens?
C'est bon. En fait, mon nom est venu d'une ancienne réputation à moi, en fait. J'ai toujours eu cette réputation d'un fou. En fait, c'est un fou par rapport à celui qui ne va pas tout le temps dans la même direction que la masse, en fait. Bon, je me suis très vite démarqué et je me suis affirmé dans cette dans cette différence, en fait. Les enfants de mon âge aussi, au moment où j'étais très jeune, je ne ressentais pas forcément le besoin d'agir comme tous les autres, en fait. Quand j'avais envie de m'isoler, que ce soit pour lire, que ce soit pour créer, parce que aussi, j'étais beaucoup dans le bricolage.
Mm-hmm.
À l'âge de 12 ans, d'abord, j'étais déjà là à créer des robots qui marchent à pile alcaline. Des maquettes 3D, tu vois, à très bas âge, à faire des bandes dessinées, à concevoir des aquariums miniatures.
Oui.
Donc, forcément, pour des garçons qui fréquentent d'autres garçons qui forcément vont sortir, jouer au football, traîner dehors, c'était pas aussi commun, en fait. Donc, je me suis très vite démarqué et j'ai eu cette réputation de fou, il est fou, il est fou, en fait. Et c'est de là que, en fait, ça m'a poursuivi jusqu'à ce que, en fait, je grandisse aussi avec l'idée de comprendre le monde, comment marche le monde, et de vouloir aussi dire que, voilà, je ne veux pas être à l'image de tout le monde. Moi, je suis qui je suis, je le reste et je l'affirme. Et dans mon milieu, on a aussi cette réputation qui s'est pérennisée comme celui qui ne marche pas ses mots, en fait. Qui dit les choses comme ils sont, qui fait les choses comme ils sont, et qui est en fait de manière très naturelle dans sa manière de faire. Donc, ce fou vient dans la définition de Matt, comme Matt le fou. Et Zo, c'est mon sourd. Tous les gars qui s'appellent mon sourd dans la rue, dans nos quartiers, dans la barrière, on les appelait Zo, en fait. Donc, c'est là où Zo est venu, Matt Zo. Matt Zo le fou. Voilà, c'est dans cette dynamique, quoi.
Je veux savoir, The Radical Killuminati, tu n'en as pas parlé, il faut me dire.
En fait, la première fois où j'ai entendu ce mot Killuminati, en fait, ça m'avait tellement marqué, en fait. Donc, c'est venu de Tupac, vous connaissez tous, qui en fait prônait cette philosophie d'une manière très particulière, dans sa manière d'être, dans sa manière de dire les choses, dans sa manière de vraiment être cette force centrale et attractive de toutes ces énergies autour de lui et à réussir à les inviter autour de l'essentiel. Ça m'a parlé. Mais Culluminati aussi, parce que j'avais compris le monde à un tel niveau où il y a, voilà, ces sortes de lobbying, cette sorte de jeu du pouvoir.
Mm-hmm.
Qui s'instaure un peu partout,
mm-hmm.
et qui nous fait voir les choses dans une fausse dynamique.
Mm-hmm.
Une illumination. On ne peut pas tuer une illumination en quelque sorte.
Mm-hmm.
Mais c'était dans le souci de décomposer une fausse illumination. C'est quoi? C'est parce que dans ce monde, j'ai grandi avec des concepts de compétition, dans des concepts des rapports de force. C'est-à-dire, tu réussis si tu as une maison, une belle voiture, un compte en banque bien rempli. Alors que moi, depuis le bas âge, je ne rentrais pas dans cette vision de la vie-là, en fait. Donc, lui, il est quelqu'un qui a toutes ses richesses matérielles, qui est beaucoup plus respecté dans nos sociétés que celui, par exemple, qui prône la richesse spirituelle, intellectuelle.
Mm-hmm.
Et moi, j'étais dans cette dynamique de richesse spirituelle, intellectuelle. Et je me suis reconnu dans ce désir de décomposer, en fait, ce qu'on appelle cette illumination, ce qui met en lumière certaines personnes pour de fausses valeurs.
Tout à fait.
Donc, le radical Killuminati, c'est venu là-bas. Et ce radical-là, c'était, voilà, sans ricocher, en fait, celui qui m'a passé mon no sugarcoat. On dit les choses comme ils sont, on fait les choses comme ils sont. Et puis, c'est tout.
Mais The Radical, c'est une expression qu'on utilise et apparaît également dans le nom du collectif. Parce qu'on a dit RBS Crew, c'est Radical Bomb Shop.
Oui.
Et
c'est bien ça.
Pourquoi la notion de radicalité, elle se retrouve à la fois dans votre nom Mazzo, dans votre nom d'artiste, mais également dans celui du collectif?
À la base, le collectif, on l'a créé.
Mm-hmm.
Et moi, comme j'étais de nature à essayer de tout le temps ficeler les choses, leur donner une ligne directrice, tant dans leur dimension intellectuelle que spirituelle. Je me suis commencé à écrire une sorte de manifeste du collectif, en fait. Et c'est de là où est né ce désir de définir notre avenir. Donc, RBS Crew, le radical, comme vous le voyez, même ça ne s'écrit pas d'une manière conventionnelle, comme on a l'habitude de voir. Donc, aussi, de là est né ce désir de décomposer, en fait, de dire qu'à l'école, on nous apprenait à écrire radical, R-A-D-I-C-A-L. Mais nous, on ne l'écrit pas comme ça. On a fait radi-k-l. Et beaucoup de gens nous ont posé ces questions, pourquoi l'avoir écrit d'une telle manière. Je voulais aussi dans ça souligner trois mots qui sont carrément essentiels et qui sont le socle même de nos actions dans le collectif. Donc le radi, c'était plutôt dérivé du radical, le mot à la base, qui ne signifie pas forcément quelque chose de violent et qui, dans le dictionnaire même, a une autre signification, c'est-à-dire la racine. Le radical d'un mot, c'est la racine d'un mot, en fait. Donc, mettre l'accent sur nos racines, en fait, ce qui nous pousse à agir. Comme disent les Wolofs, lui yungu, lui ko yungu, moko donné, en fait.
Exactement.
Comprendre notre soubassement, que ça soit intellectuel, spirituel, profondément s'ancré en soi avant de poursuivre par un procédé que j'ai enclenché après pour dire que c'est le cas de knowledge, de la connaissance, qui va être le fondement de nos actions, parce que ça doit être soumis à la connaissance. Si on se lève juste pour faire des trucs en freestyle, en fait, ça n'aura pas d'âme.
Tout à fait.
Donc la connaissance, en quelque sorte, donne une âme à nos actions. Mais à un seul but, c'est comme le credo, illuminer la vie des gens. Donc, le dernier L, c'était l'air, la lumière. Donc, le radical est venu comme ça. Bon, dans l'appellation, dans, comme on le dit, les gens vont juste entendre radical, alors que ça cache un sens bien plus profond.
Mais c'est intéressant de vous entendre parler de ça, parce que cette façon de décortiquer et de segmenter les mots, de prendre la racine du mot, de récupérer que ce soit les terminaisons ou même la manière dont un mot s'écrit, c'est un travail aussi qu'a fait Tadio à un moment donné. C'est même une part importante de son œuvre sur comment certains mots se disent, comment ils s'écrivent, et c'est ce qui lui a permis à un moment donné aussi de pouvoir faire les ramifications entre l'Égypte ancienne, la Haute Égypte et nos cultures.
C'est exactement ça. C'est dans la tradition en fait intellectuelle de Sharon Tedio. Il a mis l'accent sur la langue et à un moment donné, ça m'a tiqué. Pourquoi est-ce qu'il parle de la langue comme en fait le moteur même de notre réussite sociale, le moteur même de notre organisation fédérale qui peut impacter sur nos manières de vivre, sur nos aspirations souveraines. Et j'ai commencé à m'interroger sur la langue. Pourquoi est-ce que ça avait tellement d'importance pour le professeur Sharon Tedio? Et c'est par la suite qu'on comprend qu'en fait, il y a beaucoup de pollution idéologique qui passe par ça. Et donc, la langue est en mesure de corriger ces pollutions idéologique là.
Tout à fait.
Et c'était sur ce même sens-là que je voulais aborder.
Mais qu'est-ce qui, justement, est, selon vous, ce qui fait fonctionner votre collectif? Qu'est-ce qui motive ou détermine le choix d'une action collective?
En fait, il fallait d'abord cultiver l'idée de fraternité, c'est-à-dire qu'au-delà de nos aptitudes artistiques, on est des humains, on est des frères, on est des sœurs. On sème autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'humanité que nous partageons tous en commun. Moi, si en fait, je suis porté plus au devant de la scène, c'est pas parce que je vaux mieux que vous ou que je suis le meilleur. C'est parce que par consensus général, vous avez décidé de me porter au devant de la scène. C'est pas des postes de privilège, mais plutôt de responsabilité par rapport à mes frères et mes sœurs qui viennent continuellement me voir et qu'on sent direct que c'est juste des gens qui cherchent à se connecter d'abord spirituellement. on partage les mêmes visions de la vie, on vient tous presque du même background social. Donc, il n'y a pas... On va créer une synergie où le milieu artistique ne va plus être ce milieu de compétition-là. Donc, il fallait d'abord rompre avec cette tradition de compétition pour pouvoir mouvoir ensemble.
Tout à fait.
C'est-à-dire, Mazo, tu peux être un des membres fondateurs et à la fois le président du collectif. Si un jeune qui a adhéré hier au collectif RBS Crew a quelque chose à dire, a des idées nouvelles à dire, on l'écoute. Si ses idées valent mieux que les miennes, ben on jette les miennes à la poubelle et on adopte ce qu'il propose. Donc ça nous permet de tous rester au même pied d'estal. Et de se dire que peut-être que je peux avoir 2 ans ou 10 ans d'expérience de plus que toi, jeune qui vient tout juste d'adhérer. Quand on va sur le mur, je corrige tes lacunes. Parce que sur le mur, c'est le travail de RBS. On a privé vraiment l'idée de collectif, on a primé l'idée de famille. Pour ensuite créer en fait cette famille où même financièrement, chacun essaie de prendre soin de l'autre. Et ça, c'est la particularité de RBS. Un membre peut être malade, il peut voir que tous ses soins seront pris en charge par ses propres frères et sœurs jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital sans dépenser 5 ans. Et après, il se sent complètement attaché à la famille où, voilà, cet esprit de famille va être pérennisé pour que dans le travail, il n'y ait pas de compétition ni d'esprit sectaire où celui-là est meilleur que l'autre. Non, on essaie de primer, en fait, le fait de mouvoir ensemble.
La culture hip-hop ici au Sénégal, elle est très, très développée, très, très ancrée aussi dans les cultures. Et ce que ça soulève aussi, c'est qu'au moment où la crise du Covid, elle éclate au Sénégal, les premières initiatives, en dehors évidemment du domaine de la santé, de l'économie, etc., mais dans le domaine de la culture, les premières initiatives qui pointent le bout de leur nez, c'est la prise d'assaut des murs de Dakar par les collectifs de street artistes et le collectif Dan Corona avec des artistes issus d'abord de la culture hip-hop et ensuite d'autres domaines qui vont se réunir autour de cette volonté de chanter et de mettre en place des actions et des initiatives pour lutter contre la crise justement du Covid-19. Et ça m'amène à la question que j'allais te poser, c'est quand l'état d'urgence est déclaré au Sénégal le 23 mars 2020, vous n'avez pas attendu du tout pour agir et vous avez lancé une campagne de sensibilisation au Covid-19. Et la question que je me pose, c'est d'où c'est venu? Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit, écoutez, on va prendre d'assaut les murs de l'université, les murs de Dakar, ou est-ce que c'est une œuvre qui vous a été commandée?
En fait, c'est par rapport d'abord à cette tradition hip-hop de porter le message et d'être proche à la population dans tout instant, en tout instant. Et quand il y a eu l'actualité de ce Covid, en fait, on devait à la base travailler sur un projet de fresque avec l'Université de Dakar.
Ouais.
Donc, ce mur de sensibilisation aller destiné à autre chose, en fait.
D'accord.
Mais au même moment, on a eu la première initiative qui a abondé dans ce sens, et ça a été pris par M. Atibou Diallo,
oui.
qui a l'expérience de travailler avec les graffeurs, qui est un agent culturel,
oui.
et qui a eu l'idée de sortir le collectif Ondugraf de Yumble, et de peindre dans les murs de Yumble, sur les murs de Yumble, juste pour sensibiliser sur les gestes barrières. Donc lui, il a eu l'initiative et il a le mérite de l'avoir fait en premier.
D'accord.
Donc il l'a fait et à ce même moment-là, on a reçu l'invitation de l'Université de Dakar qui nous ont dit, voilà, on devait faire quelque chose, c'est l'occasion de le faire, on va mettre ce support à la disposition de la sensibilisation contre le Covid. Et c'était important en ce moment-là parce que peut-être que nous pouvions avoir notre discours politique derrière le Covid, mais à ce moment précis-là, c'était plus, ça devait être plus ancré sur la sensibilisation, le souci de préserver d'abord des vies avant de leur expliquer quelque chose d'autre, en fait. Donc, on est parti rejoindre, en fait, l'invitation de l'Université de Dakar. Parallèlement, il y a Atibou et le collectif Ondographe qui exerçait à Yumble et qui était très présent sur le terrain. On a commencé à l'Université de Dakar pour ensuite voir que d'autres collectifs avaient rejoint cette même dynamique de recherche. Donc, ça a été un peu réparti un peu partout pour dire vers les zones de la banlieue, que ce soit sur Parcelle, que ce soit à l'université, à Yumble, à Camberin. Et c'est par la suite qu'on a reçu l'appel de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, qui ont salué cette initiative et qui voulaient qu'on vienne aussi les aider dans leur campagne de sensibilisation contre ce Covid, en peignant une fresque sur leur façade principale aux Almadies, en fait.
Mashallah.
Et on est parti rejoindre cette même dynamique en même temps, puisque nos images ont été largement diffusées partout même.
Ouais.
Donc, c'était juste aussi dans le souci de plus diffuser l'information au maximum, de sensibiliser au max et de réunir, en fait, de conjuguer les forces autour de l'essentiel du monde.
Et comment ça a été reçu quand vous peignez, notamment dans les quartiers populaires, autour de l'université, comment les gens y réagissaient à ce que vous faisiez? De manière générale, on peut observer que le public, il est plus que favorable aux interventions des graffeurs. Je me suis même laissé entendre dire que les riverains vous appelaient et vous demandaient sur un mur vide, ils vous disaient « Mais pourquoi vous peignez pas ici, enfin, c'est vide ?»
Ouais.
Voilà, et donc comment finalement vous avez réussi à travers votre art à arriver à faire entendre aux gens la gravité et l'importance de se prémunir du Covid-19?
En fait, il y a eu une petite anecdote, parce qu'il y a eu un vieux qui est passé devant le mur de l'université pendant qu'on peignait. Il est passé à côté de moi pour me souligner une phrase, en fait, qui m'avait marqué, parce qu'il m'a dit, ils ont fini par comprendre. Alors, je lui ai demandé, mais qui a compris quoi? Il m'a dit, ouais, les autorités et la population, ils ont fini par comprendre que la communication visuelle était la plus efficace.
Tout à fait.
Et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'en fait, on ne réalise pas que notre population est en majorité analphabète, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils ne peuvent pas écrire, ni même lire ou même comprendre ce qui est dit, en fait. Eux, ils vont être embarqués dans cette vague de panique parce qu'on leur a dit état d'urgence. C'est quoi état d'urgence? C'est-à-dire, voilà, tu vois, du temps qui est. En fait, ils vont être dans la panique. On ne leur donne pas l'information qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils regardent à la télé des images qui les choquent de l'Occident où des corps sont rapatriés par milliers. Le Sénégalais lambda se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la fin du monde. Et c'était important de leur dire qu'à la base, vous pouvez vous prémunir et vous protéger à travers des gestes très simples, qui sont même à la base des gestes d'hygiène de base. C'est-à-dire que vous pouvez adopter chaque jour chez vous, même s'il n'y a pas ce problème de Covid.
Tout à fait.
Et quand ils ont vu, en fait, qu'on peignait en images ce qu'ils entendaient à la radio sans rien comprendre, ce qu'ils voyaient à la télé sans rien comprendre, ils se sont approchés pour poser des questions, pour dire, ouais, pourquoi c'est tel-là a un masque? Et on leur explique. Pourquoi tel-là se lave les mains? On leur explique que c'est par ces voies de transmission qu'il faut couper, en fait, la diffusion et la propagation du virus. Donc, ils ont compris à travers l'image. Ce qu'on leur montrait, ils pouvaient voir directement et comprendre cette dimension d'informations, en fait, qui leur est plus accessible. Et dans cette même dynamique de street credibility, dans le hip-hop, il y a cette dimension de street credibility que nous, artistes graffeurs, on a. Par exemple, un chargé, en fait, du ministère de la Santé peut dire quelque chose qui ne passe pas forcément aux oreilles du Sénégalais, mais qu'il va plus accepter si c'est moi qui le peins dehors. Donc, il y a aussi cette responsabilité du graffeur qui doit prendre en tout temps et agir en conséquence. Et on a vu que cet acte a eu beaucoup d'impact. Parce qu'eux aussi, ils ont fini par comprendre que c'était quelque chose de sérieux et qu'ils avaient à se protéger. Et c'est par la suite que l'information s'est diffusée de manière plus générale et ils ont beaucoup plus compris le phénomène.
Et est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment à un moment donné, parce que vous avez été à bien des égards les porte-drapeaux du ministère de la Santé, parce que vous avez fait un travail de sensibilisation sur le terrain, indépendamment du fait de peindre les fresques, vous avez été là au contact des populations chaque jour pendant des semaines et des mois à sortir et pour pouvoir délivrer le message que vous aviez à délivrer, prendre le temps de discuter avec les gens, de les rassurer, de leur dire, en fait, de leur expliquer concrètement les choses, même s'il y a eu un travail qui a été fait médiatiquement à ce sujet-là. Mais comme tu le dis toi-même, le fait de pouvoir vous avoir apporté, eh ben, ça a apporté de main, ça a permis aux gens de se sentir aussi plus à l'aise pour poser des questions. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti lâché quand les médecins étaient là à dire « c'est pas fini, il faut rester prudent » et qu'ensuite, par ailleurs, il y avait des annonces qui étaient faites à la télé par le gouvernement en disant « on ouvre, l'état d'urgence est toujours là, mais on augmente le créneau du couvre-feu, vous pouvez retourner faire des rassemblements, etc. etc. » Est-ce que ça ne rend pas difficile ce que vous faites ?
L'avantage, en fait, de ce qu'on a fait, c'est que peut-être le chargé de communication du ministère de la Santé peut sortir, faire son discours, mais une fois que le discours est fini, c'est fini. Et dans la tête de la plupart des Sénégalais, ils vont être occupés à autre chose.
Oui.
Sauf que les fresques, ils sortent, c'est toujours là.
C'est sûr.
Les fresques leur rappellent en fait une réalité toujours là.
Oui, oui.
Et leur faire comprendre qu'en fait, c'était juste dans le souci de dire aux Sénégalais, à chaque Sénégalais, que tu as la responsabilité de l'autre Sénégalais.
C'est très
si toi-même, tu te dis, ouais, je ne crois pas, je ne me protège pas, etc., etc., à un moment donné, pose-toi la question à savoir, est-ce que la décision que je prends profite à l'autre Sénégalais qui peut-être peut vraiment tomber malade à cause de moi.
Tout à fait, tout à fait.
Donc le message, c'était plus leur faire comprendre qu'à la base, dans ces genres de situations-là, on en profite pour réaliser comment est-ce qu'on vit socialement et qu'on a des responsabilités vis-à-vis de tout un chacun. Maintenant, nos politiques, par rapport à leur prise de décision, par rapport à leur manière de faire, il y a à porter débat sur comment est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font au compte de la population, est-ce qu'ils le font à leur compte, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des mesures qui ne sont pas concordantes à nos réalités politiques, sociales, etc., etc. Ça rentre dans un autre débat.
Tout à fait.
Mais nous, et nous personnellement, artistiquement, on a notre point de vue sur ça.
Oui.
Mais le moment, c'était le moment de dire aux Sénégalais, soit d'abord sauf, après on en discute de l'aspect politique, mais d'abord soit sauf.
Et c'est important parce qu'on a pu se rendre compte aussi que quand il y a eu un appel politique à ce que toutes les sensibilités se réunissent autour du gouvernement en place pour pouvoir accompagner cette campagne de sensibilisation, vous y étiez tous, tout le monde a accepté de jouer le jeu. Parce que ce qui était prioritaire, c'était la santé des Sénégalais et de veiller à ce que tout le monde comprenne ça. C'était la responsabilité de chacun que d'accompagner les évolutions, que ce soit au niveau du ministère, au niveau des hôpitaux et plus simplement dans ton propre quartier, comment tu fais pour que tout le monde soit sauf et que les gens puissent continuer d'avancer. Mais par rapport aux fresques, encore une fois, tu disais très justement tout à l'heure que les fresques, elles restent, l'image, elle reste, le discours, il va s'en aller, les archives audio, si elles ne sont pas compulsées, bah, elles ne seront plus là dans quelques années. Donc, la fresque, elle sera, elle, toujours là. Et ça me rappelle un élément que tu as mis en avant dans une interview que tu avais eue avec MHP d'Euro, où vous discutiez un peu de notre culture ou la manière dont le fait de peindre ou d'être en contact avec des murs peints ou des murs avec inscription, c'était dans notre culture depuis toujours. Et pour ça, tu faisais un rapprochement intéressant entre le street art et l'art pariétal, l'écriture hiéroglyphique égyptienne ou encore les fresques murales datant du Moyen-Âge. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Parce qu'effectivement, quand on regarde certains éléments concernant les fresques préhistoriques, les grottes de Tassili et Nogar, les découvertes qui ont pu être faites dans le désert du Niger ou même en Mauritanie, on se rend compte que oui, évidemment, peindre sur des murs, c'est dans notre culture. On dépose et on laisse. C'est comme si le mur a toujours été, ou la surface a toujours été l'espace où on pouvait laisser une trace de notre passage sur Terre ou de notre histoire. Mais j'ai trouvé hyper intéressant le rapprochement que tu as fait avec l'art pariétal et une culture en fait qui était bien au-delà de notre propre réalité en tant qu'individu aujourd'hui en 2020.
Parce qu'en fait, à la base, on a tendance à oublier que le dessin est la première forme d'écriture, en fait. Et c'est ce qui le faisait à l'époque, par exemple, pariétale ou paléolithique ou néolithique, par exemple, n'étaient pas forcément des artistes. C'est aussi ça, dans notre tradition, en fait, qui nous fait comprendre que l'art avait d'abord une portée spirituelle avant d'être une profession. C'est-à-dire, ce qu'on peut comparer, par exemple, à nos griots actuels, il existait des griots à l'époque qui étaient chargés de réécrire l'histoire parce que c'est inscrit dans leur génétique, en fait, ce besoin de transmettre, de faire comprendre parce qu'on a conscience qu'on n'est physiquement pas éternel, mais que d'autres vont venir après nous et auront ce besoin-là de comprendre ce qui se serait passé à l'époque. Et c'est même à l'origine de tous les problèmes qu'on voit maintenant, parce que peut-être qu'un groupe social va essayer d'effacer l'histoire, l'empreinte historique d'un autre groupe social qu'il va avoir problème. Donc, c'est très fondamental de laisser ces traces-là. Et eux, ils ont dessiné. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient, et c'est de là même, c'est de cette époque même du paléolithique, du néolithique, à travers le rupestre et le pariétal, qu'est née en fait l'idée de créer le premier spray bomb. Le spray bomb, c'était quoi à l'époque? En fait, ils ingurgitaient des pigments naturels dans la bouche, mélangés avec de l'eau. Ils posaient la main sur le rocher et soufflaient autour pour créer un effet de pochoir. Le stencil est né là-bas, le spray can est né là-bas, de cette même idée. Okay. Et c'est pour cela que, par exemple, quand je discute avec les frères Black Panther du Oakland, Californie, ils définissent le graffiti comme un urban hieroglyphics. Parce qu'ils ont fait cette, en fait, ils ont retracé l'histoire pour comprendre qu'à la base, nous sommes les héritiers de ces anciens-là, en fait, qui ont donné la naissance à des disciplines scientifiques comme l'histoire même. Parce qu'à travers ce qu'ils ont dessiné, à travers ce qu'ils ont laissé et qui sont toujours là, on a pu comprendre comment vivait un groupe social bien déterminé dans une zone géographique bien déterminée. Et nous, par exemple, le graffeur sénégalais de 2020 au Sénégal, d'ici, par exemple, 20 ans, 30 ans, un jeune va entendre parler du COVID. Mais c'était quoi le COVID? Il n'aura pas le temps de peut-être demander à des témoins oculaires ou à d'autres personnes, mais de juste passer devant un fest et de comprendre en fait le sens de ce qu'on voulait dire à cette époque-là. Il peut sur cette base-là comprendre ce qui s'est passé et comment la pression sociale a été telle
que les populations ressentent le besoin de laisser des traces. Même si pendant ces époques-là, c'était plutôt des messages de sensibilisation. Parce qu'il faut aussi se poser la question à savoir ceux qui peignaient les premiers dans les grottes, mais c'était à quel but? Est-ce qu'ils le faisaient parce qu'eux, ils voulaient décorer? Est-ce qu'ils le faisaient parce qu'ils voulaient communiquer aussi avec des générations qui allaient venir des millénaires et des millénaires après? Mais quoi qu'il en soit, l'homme a toujours ressenti ce besoin de laisser des traces de son passage. Comment? Par l'expression brute de son humanité, c'est-à-dire, je vois quelque chose, je le retranscris. Je vois quelque chose, je le retranscris. Et nous sommes en mesure de dire que, par exemple, le mammouth a existé, mais aucun de nous n'a jamais vu un mammouth avec ses propres yeux, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous donne aussi la connaissance de toutes ces merveilles qui, peut-être, ne seront plus là d'ici quelques années? C'est par cette tradition, en fait, d'écrire à travers l'image, et cette écriture à travers l'image a donné naissance à l'écriture alphabétique où l'être, même quand il lit un livre, se projette dans cet univers, il y a l'image qui vient dans sa tête. Donc, il est toujours dans cette tradition d'image, l'écriture par l'image. Même si c'est des mots qui le disent maintenant, il faut qu'on lise des mots pour comprendre qu'en fait, ces mots-là sont des images.
Tout à fait.
Donc, c'est profondément ancré dans notre génétique pour que nous-mêmes, artistes, graffeurs, qu'on comprenne à la base qu'on a toujours existé, en fait. Et qu'on aura à exister parce que d'autres nous ont montré comment on fait. Nous aussi, on a la responsabilité de montrer à ceux qui viennent comment on fait.
Ouais. Et c'est intéressant que tout à l'heure tu parlais de la notion d'effacement de l'histoire ou ce qui finalement génère les conflits de notre époque. C'est quand un groupe dominant, d'une certaine manière, cherche à réécrire l'histoire ou à effacer une part de l'histoire et que finalement la plupart des conflits, des difficultés que l'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est de ne pas donner la possibilité à chacun de porter sa propre histoire. Et ça me ramène au Musée des civilisations d'art qui a été inauguré en 2018 à Dakar, en décembre 2018, avec une exposition intitulée « Civilisation africaine, création continue de l'humanité ». Donc, dans cette exposition inaugurale, il y avait une série de thématiques qui allaient de l'Afrique, berceau de l'humanité, en passant par les contributions de la science et à la technologie, l'appropriation africaine des religions abrahamiques, les lignes de continuité. C'était une sorte de gloria, mais pour l'Afrique, quoi. Et remettre en avant et remettre en perspective une histoire qui n'est peut-être pas enseignée dans nos écoles. Et souvent, on a fait ce constat-là, c'est qu'on s'est rendu compte que quand les élèves arrivés viennent voir les expositions, ils ne connaissent pas une très grande partie de ce qui est dit là. Et l'idée principale de cette exposition, je pense, était de veiller à ce que nos enfants soient au fait de la pluralité des aires civilisationnelles qui ont traversé, qui continuent de traverser et qui ont marqué le continent africain. Et d'une certaine manière, ce travail-là, moi, je le vois en lien direct avec la mission que le RBS Crous s'est donnée et depuis le début, parce que le musée, on l'inaugure en 2018, il y a tout un discours, tout un travail qui est fait, mais le RBS Crous travaille sur ces questions-là depuis un moment et j'ai le sentiment que c'est un besoin qui se fait ressentir dans la jeunesse africaine, diasporique, mais sénégalaise aussi. Et moi, je m'interroge sur comment vous expliquez, est-ce que vous expliquez cette convergence des luttes? Est-ce que c'est une question de génération ou est-ce que c'est un besoin collectif ou est-ce que c'est les strates de certains discours qui ont été prononcés sur le continent? À quoi c'est dû finalement ce besoin de dire ou de connaître l'histoire ou en tout cas de la redire et de s'assurer que tout le monde la comprend?
Moi, je dirais que c'est d'abord cet éveil spirituel, intellectuel, en fait. Spirituel parce qu'on est humain et on a bien conscience de ce qui nous fait humain. Parce qu'il y a une différence entre être humain et ce qui te fait réellement humain. Ce que disent les Wolofs, nit ak nité. C'est deux choses différentes, en fait. Mais aussi ancré
Donc, par exemple, ce que Cheikh Anta Diop nous conseille, en fait, mais de se prémunir de science, de connaissances, pour arracher, en fait, notre patrimoine culturel. Parce qu'il savait qu'en fait, on ne peut pas aspirer à aucune sorte de souveraineté sans ayant totale connaissance de soi-même. C'est impossible. C'est un combat perdu d'avance si on est là à parler d'unité africaine, à parler d'invitation à nos frères africains, par exemple, à leur dire, venez, on combat le racisme. On va combattre le racisme à travers le monde alors que le Guinéen au Sénégalais, il est à plein drain.
Je te jure.
Le Congolais, il est à plein nia, oui, chez nous. Et qui sont des insultes.
Uhum.
Donc nous, en tant que peuple africain, nous avons à prendre connaissance d'abord de nous-mêmes, par nous-mêmes. Parce que ça aussi, c'était important. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent l'Afrique à travers la bouche de l'Occident. Ça crée une fossée, en fait, dans son logique, dans sa réflexion, dans sa manière de composer, en fait, le socle de son argumentaire futur. Ça va créer des problèmes vraiment très béants. Et en tant qu'être africain, il y a ce que Cheikh Anta Diop aussi nous mettait en garde, c'est les intellectuels soustraits de toute leur substance culturelle. Donc, il nous met en garde contre cette quête de savoir-là effrénée qui va nous pousser à nous éloigner de notre culture parce qu'il savait que notre culture est à la base de notre connaissance. D'abord, nous sommes des êtres profondément spirituels qui doivent se connecter à leur spiritualité. Notre spiritualité, c'est quoi? C'est l'humain. C'est l'humain qui est à la base, la somme de toute création, en fait. L'être humain profondément connecté dans cette dimension, dans cette réalité. Parce que quand Kwame Nkrumah dit qu'il n'est pas africain parce qu'il est né en Afrique, mais qu'il est africain parce que l'Afrique est née en lui, ça, c'est pas l'Afrique, le Sénégal, Côte d'Ivoire, ça parle d'autre chose. Et dans cet état d'esprit-là, on veut d'abord prendre conscience, c'est une question d'éveil, et de se dire, en tant qu'être culturel, je suis qui? Parce que quand Cheikh Anta Diop parlait de tous ces meurtres qui sont en train de se passer et de nous dire que c'est né de la négation de l'histoire, des réalisations des peuples africains, qui est à la base ce meurtre culturel, intellectuel, qui a donné naissance à ces meurtres que nous voyons dans notre temps là. Donc, il était un avant-gardiste, en fait, de ces réflexions-là.
Oui, tout à fait.
Et nous, en tant que jeunesse, on a grandi dans un pays où on a tout le temps célébré tous les autres, par exemple, sauf Cheikh Anta Diop, et qui a été dépositaire même de notre éveil intellectuel. Cette sorte de frustration qui commence à bouillir dans la poitrine de ces jeunes-là, et ça se sent. C'est parce qu'ils ont réalisé d'eux-mêmes qu'on leur a passé tout ce temps à leur mentir, en fait, à ne pas leur dire la chose, à ne pas leur dire ce qui se passe, et qu'ils ressentent toujours ce besoin d'essayer d'exister au regard des autres. Il y a ce besoin spirituel de se reconnecter à la source. Mais après tout cela, déployer une sorte d'argumentaires qui ont des sous-bassements solides, c'est-à-dire de la part de nos grands penseurs, et les exemples n'en manquent pas, de la part de ceux qui ont toujours été là, debout, et qui ont été juste guidés par l'amour de leur nation, de leur patrie. Cheikh Anta Diop ne vous a pas dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité pour le plaisir de le dire. Il l'a démontré aussi bien dans le fait scientifique et politique, même vous avez des arguments à dire. Mais prenez le temps de vous défaire de cette paresse intellectuelle-là. Et de vous suffire de ce qu'on vous donne. Google ne va pas vous donner les informations que vous voulez. Il y a cette ligne de transmission de père-fils
qui existe toujours, rapprochez-vous des plus vieux. Prenez le temps en tant que nous, jeunes, nous devons prendre le temps d'écouter. Il faut écouter. Parce qu'on est sur le chemin d'aller apprendre à d'autres générations. Alors, il faut qu'on écoute la génération qui nous précède et qu'ils nous disent qu'on concorde avec les réalités de notre époque pour être en mesure de passer le flambeau, en fait. Parce que Chanta a fait ce qu'il avait à faire, donc libre à nous de revisiter son héritage intellectuel et de le concorder par rapport à notre réalité et d'aider la génération qui vient à transiter de manière plus simple, en fait. Et c'est de là qu'est né, en fait, le souci de se reconnecter à notre histoire, notre héritage, dans le seul souci de connecter notre peuple à travers le monde. Comme dit le frère Elom du Togo, il dit que j'ai parlé aux ancêtres et qu'ils m'ont demandé d'aller travailler pour les âmes à naître. Ça, c'est très important. Ces âmes à naître. Donc, nous, notre devoir par rapport à notre temps, c'est de construire les ponts maintenant. C'est de construire les ponts pour leur faire comprendre que aux États-Unis, ils vont tuer un noir, un Africain noir, et que le Sénégalais va s'indigner ici. Pourquoi? C'est un Africain, c'est tout. Il est de notre famille. C'est mon frère, c'est ma sœur, etc., etc.
Mais ça rejoint en fait la question qui suit, parce que j'allais te demander qu'est-ce que t'évoques la situation actuelle aux États-Unis, mais aussi en France, au Royaume-Uni, et tu l'as déjà évoqué et tu en as parlé de la question du racisme. Est-ce que le RBS Crew a manifesté ou est sorti justement pour produire des fresques qui font écho à cette actualité-là aussi?
On dit que maintenant, c'est parce que le racisme est filmé que ça a pris autant d'ampleur. Mais Rodney King a été filmé en train d'être tabassé. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il arrive à un moment donné de l'histoire où un être humain poussé dans ses derniers retranchements va vous faire face. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tous ces privilèges ont créé ce réceptacle de frustration qui est en train d'exploser, en fait. Et ça va plus exploser encore. Parce qu'il y en a de ce groupe d'intellectuels qui étaient plus dans le discours de compromis, qui ont discuté, qui ont parlé dans une dynamique pacifique et qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été tenus en compte. Il va y avoir cette vague de radicaux-là qui vont venir et qui ne seront plus dans le compromis. L'autre jour, avant-hier, on a vu le frère Moa Zulu de Yanka Nkou qui entre dans le musée de Quai Branly de Paris pour arracher en fait un artefact africain exposé. En fait, carrément l'arracher pour dire aux gens « Je retourne en Afrique avec nos biens. » Ça, c'était inimaginable quelques années en arrière. C'est parce qu'il y a un mouvement en marche.
Mazo, pour finir, comment envisages-tu le monde post-Covid-19?
C'est déjà en fait le monde. Changement manifeste.
Ouais.
Parce qu'on voit maintenant des jeunes sénégalais qui en ont marre d'être confinés, qui vont faire face à la police et brûler des ambulances. Tu vois, c'est des graines du changement, en fait. On voit aux États-Unis, à travers le monde, je dirais, malgré toutes les restrictions sanitaires, etc., les gens sont sortis en masse pour manifester contre le meurtre de Floyd. De la même manière que nous aussi, ça nous a boosté à un niveau où on a fait un énorme mur qui est en train de faire beaucoup de bruit. Pour que, par exemple, le journal Le Soleil, aujourd'hui, ils ont sorti un article pour dans cette dynamique même de division, ils ont écrit que notre manière de faire ici était contre le Black Lives Matter aux États-Unis. Ces graines de division-là. Moi, j'ai reposté, parce que l'interview, on l'a fait. Et en plus, ils ont utilisé une photo où j'étais là. pour faire ce poste de dire, ouais, différent de Black Lives Matter qui sont plus dans une victimisation, parce qu'ils jouent avec les mots.
Mais c'est sûr.
Nous, nous avons fait une presse.
Quel journal qui a posté ça?
Le Monde. Le Monde. Journal Le Monde. Le journal français Le Monde. Et il y a eu une fille journaliste qui m'avait en fait mise en rapport avec eux et d'autres qui m'a dit, mais j'ai été choqué même quand j'ai lu ça et il semble ne vouloir même pas faire d'efforts pour changer le titre parce que je leur ai dit, mais ils ne vont pas changer le titre parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est des journalistes, ils sont pas bêtes, je suis désolé. C'est juste dans cette philosophie de diviser. Nous, moi, j'ai fait un repost. Ce n'était pas dans le désir de m'expliquer aux yeux d'eux-mêmes, mais de faire comprendre que nous, à la base, on soutient le Black Lives Matter, comme tous les autres mouvements black qui œuvrent dans cette décomposition des paradigmes qui se sont basés depuis tout ce temps sur le faux. Donc, les propos de ce jour-là ne concernent qu'en fin de compte.
Mm-hmm.
Parce que nous, on a conscience de ce qu'on fait. Donc, il y a cette directive-là vers laquelle fonce le monde post-Covid et qui est inéluctable, en fait. C'est quoi? C'est les Africains qui n'attendent plus leur gouvernement. C'est les Africains qui n'attendent plus les Occidentaux ou peut-être les partenaires économiques pour se prendre en main. On a l'exemple de Madagascar, on a l'exemple du Rwanda, etc. etc.
Ouais.
Et il est important aussi aux Africains de comprendre, comme l'exemple de Madagascar, que quand un pays africain porte certaines initiatives, il a besoin de tous ses frères et sœurs africains pour l'aider à diffuser en fait cette initiative dans une dynamique de ressouder la nation africaine à travers le monde.
Mm-hmm.
Donc, le problème des États-Unis est devenu le problème du Sénégalais. Parce que le Sénégalais a compris qu'une fois, parce qu'il y a eu un ami qui m'a dit, mais arrête de te battre pour les Noirs américains, c'est pas ton problème. Je lui ai dit, mais ça va être ton problème le jour où tu vas entrer aux États-Unis, tu vas découvrir que t'es pas Sénégalais, tu es noir.
Ouais.
Le jour où tu vas vivre aux États-Unis, tu vas comprendre que tu n'es pas Sénégalais, tu es noir. C'est comme disait Lilian Thuram. Il a dit que j'ai découvert que j'étais noir quand je suis venu en France.
Mm-hmm.
Tu vois, ça, c'est... Ça choque. Mais à un moment donné, il a pris des moments de silence pour méditer sur ce que je venais de lui dire parce que c'était la première fois qu'il entendait ça. Et c'est important que tout le monde comprenne ça. On est Maliens, Sénégalais chez nous, hein? Guinéens et tout, chez nous, ça va. Bon. Mais quand on quitte ici pour aller aux États-Unis, à marcher dehors dans la rue et qu'il y a contrôle de police, t'es pas Sénégalais. T'es un noir, donc dans le contrôle de faciès, t'es le suspect type même à abattre en cas de geste brusque. Donc ça, c'est des réalités que nous partageons en commun et qui ont été instaurées par une vision fausse des choses. Et nous devons rééquilibrer cette balance. Donc le monde, ce sera le monde des changements.
Ouais. Et c'est il y a une chose qu'il faut quand même soulever, c'est que le mouvement Black Lives Matter, avec la mort de George Floyd et les mobilisations qui ont eu lieu partout dans les États-Unis et aussi dans le monde, est entré dans l'histoire, bien avant cela de notre point de vue, mais aujourd'hui est entré dans l'histoire parce que les États-Unis sont en train d'opérer un changement fondamental au niveau de leur politique, au niveau de leur façon de gérer les populations. Ils sont en train de remettre en question plein de schémas. Ils ont déconstruit de nombreux schémas et ils ont réussi à opérer un retour. Même si ça a été arraché, même si ça a été brutal, ils sont parvenus à se dire, OK, maintenant stop, ça va devoir changer, qu'on le veuille ou non, et ça va changer, parce que c'est ce que demande le peuple. Et ça, malheureusement, c'est un travail que des pays qui sont beaucoup plus proches que nous, de nous, des gens avec qui on vit au quotidien, là en l'occurrence il s'agit de la France, ne sont pas en mesure de faire. On a pu l'observer ces derniers jours avec les mobilisations incroyables qu'il y a eu dans les rues et la silencieuse de ce mouvement. C'est-à-dire que les chiffres ne sont pas les mêmes que la réalité. Les discours, même quand on écoute la télé, les médias, mais moi, j'ai même plus envie d'allumer la télé, on ne peut même pas se dire parce que les médias ne te donnent pas la bonne information. C'est incroyable comme le discours est dévoyé.
moi, j'ai arrêté de regarder les médias. Des informations et tout là. J'ai arrêté en fait parce qu'ils ne sont pas dans cette éthique journalistique.
Non, mais c'est terrible.
C'est-à-dire retranscrire en vrai ce qui se passe. Non. Il y a toujours une crise de camp. Il y a toujours des non-dits. De ceux qui ne veulent pas passer à la télé, il ne faut pas dire ça à la télé, etc., etc. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et nous, on en a profité parce que moi, depuis lors, j'ai été membre des Black Panthers. Mm-hmm. C'était aussi l'occasion de lancer le mouvement ici, le chapitre West Afrique de Black Panther Movement est officiellement né au Sénégal avec beaucoup de membres et dans les jours qui viennent, on va découvrir plus en fait, les directives de nos actions.
Génial.
Et voilà, avec le soutien et le respect aussi de nos aînés de Oakland, de Californie, là où est né le Black Panther Party, qui nous voient, qui nous suivent depuis des années et qui saluent l'initiative en fait. Et actuellement même, je devais être là-bas pour un projet que j'avais à bosser avec eux et qui va bientôt prendre le jour. Et voilà, on est dans cette dynamique en fait d'unification des fronts.
Et des luttes.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est génial. Mazzo, je vais te demander une dernière chose. Est-ce que tu peux nous redire où se trouve le mur en hommage justement auquel tu faisais allusion, en hommage à George Floyd?
On l'a fait au niveau de la passerelle des Mermoz, en face immeuble Mariam.
D'accord, parfait. Ouais. Et c'est là aussi que vous avez fait justement le mur où il y a Harriet Tubman. C'était votre projet.
C'est ce carrément
là. Appelé The Newest Wall.
Voilà, on l'a appelé The Newest Wall. The Newest Wall. Voilà, on voulait parler de nous.
Ouais, de nous.
Pas par la couleur, mais dans l'état d'esprit, en fait.
Effectivement.
De nous. Parce que le monde s'est aussi basé sur cette soi-disant malédiction du peuple de Cham, le noir, tout ce qui évoque malchance, le noir, tout ce qui évoque le désespoir, le noir, tout ce qui évoque la tristesse. Moi, je dis que le noir est la somme des couleurs. Mm-hmm. Donc, la couleur de la lumière par excellence.
Tout à fait.
Voilà.
Merci, merci Mazzo, merci au RBS Crew vraiment de nous avoir accordé votre temps et cet après-midi.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Et pour nous aussi, franchement, ici à Roux, on vous soutient à 100%. Tout le monde est derrière vous, tout le monde vous passe le salam.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Bye.
Bonne soirée.
Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation ainsi que la musique d'Ibaku. Suivez Raw Material Company sur Facebook et Rogram 2011 sur Instagram. Nous vous souhaitons un bon week-end. À très bientôt pour notre prochain épisode.